Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Allez, le mot de la semaine, c'est pas Bruno Le Maire, c'est l'État-providence. Alors, en fait, je vais vous expliquer un truc. On a découvert un truc cette semaine, c'est qu'il y a deux Bruno Le Maire. Il y en a un qui est ministre de l'économie depuis 7 ans, qui a distribué l'argent magique à tous sans distinction. Même moi, j'en ai reçu, transformant l'État-providence en État-nounou, qui nous a mené un peu quand même, hein. Il faut prendre ses responsabilités, un déficit public. Alors, dont on ne sait pas encore s'il sera de 5,6%. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Deux jours avant, on connaît pas le chiffre définitif. On attend sûrement qu'ils finissent de taper sur leur calculette pour savoir si ça sera 5,4, 5,6 ou 5,8. Et puis, il y en a un deuxième qui écrit un livre pour annoncer la fin de l'État-providence en France. Alors, Emmanuel Le Chip, lequel faut-il croire?
Il y a un Bruno Le Maire qui a quand même géré la crise, et à l'époque, il faut s'en rappeler, tout le monde dit qu'il l'a plutôt bien géré, hein, puisque
La crise, c'est distribuer de l'argent.
À l'époque, oui, et je vous renvoie à tous les travaux faits par France Stratégie, le Conseil d'analyse économique, qui vous disent que si on n'avait rien fait, la situation économique, au final, aurait été bien pire que ce qu'on a, que ça a été avec.
On a des contre-exemples dans plein d'autres pays.
Moi, je vous dis ce que disent des économistes sérieux, même si quelqu'un qui a fait HEC ne peut pas faire confiance à grand monde, évidemment, c'est certain. Du haut de son Olympe diplômante.
Surtout que je suis pas économiste.
Alors, il y a combien de temps, c'est la bonne question. Et en plus, il est même pas économiste.
Donc, je suis absolument pas économiste.
Il ne faut pas oublier qu'il fait partie d'un gouvernement dans lequel il a quand même dû avaler pas mal de couleuvres. Bruno Le Maire.
C'est pas moi, c'est
rappelez-vous,
la faute du patron.
Non, mais rappelez-vous quand même le nombre de fois où il nous a dit qu'il fallait arrêter les aides, qui saupoudraient, qu'il fallait cibler, et le nombre de fois où on l'a obligé à en faire. Donc,
Comment vous pouvez nier sa responsabilité?
Mais je ne nie pas sa responsabilité. Je dis, rappelez-vous ce que disait Jean-Pierre Chevènement, un ministre, quand c'est pas d'accord, soit ça ferme sa gueule, soit ça démissionne.
Exactement.
Pendant longtemps, Bruno Le Maire, il a fermé sa gueule, parce que vous pouvez pas dire qu'il était d'accord avec plein de décisions qui ont été prises.
Mais dans ce cas-là, il part.
Il avait choisi de fermer sa gueule. Donc, il est resté ministre. Le problème, c'est que là, dans son bouquin, il rentre en confrontation frontale avec, finalement,
avec lui-même.
Avec lui-même en tant que ministre de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il dit, il faut arrêter. En fait, son livre, c'est le tout sauf le en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que l'État fasse des choix, il faut faire des priorités.
C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a deux.
Il va falloir travailler davantage. Et quand on lit ce qu'il dit, il nous dit très clairement, il faudrait qu'on repousse encore davantage l'âge de départ à la retraite, etc. Donc là, oui, il écrit un livre qui, finalement, alors, le problème, c'est que, est-ce que c'est un livre qui nous dit ce qui va se passer dans la deuxième partie du quinquennat? On n'y croit pas trop. Est-ce que c'est un livre qui prépare plutôt une candidature à la prochaine élection présidentielle? C'est probable.
Il fera le même score que le déficit d'aujourd'hui, c'est-à-dire 5,6%. Patrice, quand vous regardez notre modèle français, donc il y a un modèle d'État-providence devenu État-nounou, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein, État-bouclier, État-tout, à partir du moment où il y a un problème, on donne une aide. Quel est le modèle en Suisse et quel est votre regard sur le modèle français?
Alors je pense que ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de listes de recommandations, y compris en fait, dans le livre que vous avez cité, je ne l'ai pas lu moi-même, mais quand on regarde aussi des écrits qui sont les écrits du haut commissaire au plan ou, je dirais, une projection un petit peu plus lointaine, c'est une suite de recommandations, mais ces suites de recommandations ne débouchent pas sur un consensus social qui permettrait de dire quel est le montant de la facture. Comment, qui va bénéficier de cette facture, qui va régler cette facture? Donc, avant peut-être de poser des discours sur la méthode, il faut, et là, on a l'impression effectivement qu'on change de tuyauterie, on va financer les cotisations, l'aide sociale par autre chose que des cotisations, mais derrière, il y a un modèle social, et derrière, il y a un modèle économique. Et en fait, il n'y a pas de débat sur la vérité de ce modèle économique si on se met d'accord. Et c'est là la force, en fait, d'un modèle comme la Suisse ou d'un modèle comme l'Allemagne, dans lequel, en fait, on est d'accord sur la finalité du modèle, et après, on applique une technique. Un discours que sur la technique est un discours qui est voué à des polémiques.
Christian Bitteau, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a plus d'argent?
Non, absolument pas d'accord.
Alors, Il est où l'argent? Il est où?
En fait, mais non, parce que prenons les deux extrêmes aujourd'hui par rapport à l'économie et les marchés financiers. Il y a l'extrême allemand. L'extrême allemand, Olaf Scholz a essayé, oui, l'extrême allemand de revenir vers son objectif de déficit budgétaire à seulement 0,35. Ça n'a été que restriction qu'économie. Finalement, il est à 2% à peu près actuellement de déficit budgétaire rapporté au PIB. Sa dette par rapport à la France.
Ils ont des surplus partout.
Les taux d'intérêt de sa dette par rapport à la France sont toujours exactement au même niveau. Il n'y a pas eu de sanctions ou de bonnes notes décernées par les marchés financiers. Et il est rentré en récession. Son industrie va très mal. Les derniers chiffres dans l'industrie allemande sont très mauvais.
Mais
c'est le mauvais exemple.
Mais c'est pas grave de rentrer en récession, qu'on l'a vu au Portugal, on l'a vu en Grèce, on l'a vu en Espagne.
Non, c'est très désagréable, Marc.
Non, mais on peut passer par la case récession.
Mais non, je ne suis pas d'accord. Alors prenons le bon modèle, le modèle américain, le plein emploi, le déficit budgétaire à 6%, 6%. Oui, certainement peut-être 8%, c'est une année électorale. Et la dette américaine, parce que la sanction, c'est la dette. La dette se tient très bien. Elle ne bouge pas. Même à un niveau trop faible. Il y a toujours à peu près 3% d'inflation aux États-Unis, des taux d'intérêt à 4%, j'arrondis, que des taux réels à 1%, c'est meilleur que l'Allemagne.
La différence aussi, c'est que les Américains, ils payent 25% d'impôts. Nous, on est plutôt à 50%. Mais l'autre point, moi, je pense, la chose principale, là où je rejoins Christian sur les États-Unis, c'est le plein emploi. C'est-à-dire qu'en France, on aurait le même niveau d'emploi que l'Allemagne, on serait sorti d'affaires. Donc, il faut tout faire pour maintenir l'emploi et même mettre le plus possible de gens dans l'emploi. Après, il y a des méthodes. Mais parce que vous voulez souffrir, vous voulez que les gens.
Qu'on doit. Je comprends que les politiques soient. Je comprends que les politiques soient pas courageux parce que ils veulent gagner une élection. Mais nous, on doit dire la vérité.
Mais le problème, vous critiquez Bruno Le Maire, mais dans son bouquin, je suis sûr que. Vous partagez
mais il est pas aux commandes.
Vous partagez.
Non, mais il le fait pas.
100% du diagnostic sur ce qu'il faudrait faire.
Mais comme dit Patrice, le problème c'est pas simplement d'un diagnostic, c'est de dire, de toute façon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir le courage de se confronter à la réalité en disant doit faire des sacrifices.
Il y a moyen de faire ça parce que quand vous dites il y a plus d'argent, mais si, il y en a beaucoup d'argent. On en consomme 150 milliards d'aides aux entreprises qui sont pas adaptées. Il y a des niches fiscales pour 90 milliards, c'est pas adapté. Il y a de la décentralisation. Pour 50 milliards, c'est pas adapté. Il y a 50 milliards de dépenses de l'État parce qu'on sous-traite. Mais c'est ridicule. Donc, toutes ces dépenses-là, on pourrait.
Ça, c'est des sacrifices, ça.
Mais non, c'est pas des sacrifices. D'accord. C'est réalloué. C'est réalloué
utilement. Vous plus efficace.
On pourrait faire. Allez-y.
Et ça, c'est courageux de faire ça parce qu'il va falloir se choper les syndicats.
Oui, mais ça, le problème, Alain, c'est que c'est ce qu'on nous promet à chaque fois.
Bah oui.
En 46, avant la Deuxième Guerre mondiale, en 68,
sous Clovis. C'est la solution de Marx,
oui, mais ce que je veux dire, c'est que.
J'ai jamais dit ça.
Là où ça va pas, c'est que le discours, la situation est grave. On est au pied du mur. Il va falloir faire des efforts sans précédent. D'ici 2-3 ans, on remettra le déficit sous la barre des 3% du PIB. Tous les ministres de l'économie depuis 30 ans, comme Bruno Le Maire, ont dit exactement la même chose. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que les pistes que propose Bruno Le Maire sont exactement celles qui ont échoué jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il nous propose enfin une réforme crédible de ce qu'a lundi, c'est-à-dire ce qu'on appelle
mais je pense que
la réforme de l'État, c'est-à-dire un État moins coûteux, plus efficace.
Mais on a fait 10 milliards d'économies par décret, on doit pouvoir faire la même chose par décret.
Patrice dit une chose qui est très juste, c'est peut-être même pas une modification de modèle économique, c'est une modification de modèle social. C'est ça que vous dites. C'est-à-dire que
les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Les deux. Inexorablement. Et c'est effectivement, c'est le mode.
Alors moi, j'ai une question pour vous, parce que vous regardez ça d'intérieur et d'extérieur. Pourquoi on n'est pas sanctionné, ni par l'Europe, ni par l'Allemagne, ni par l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ni par les marchés, ni par les agences de notation? Je veux dire, quand on voit des chiffres comme cela, parce que finalement, il faudrait qu'on soit sanctionné pour qu'on prenne des mesures.
Alors, le rendez-vous important sous cet angle-là, ça va être 2025, puisqu'en 2025, effectivement, comme vous l'évoquiez, eh bien, on va retrouver les critères de Maastricht. Et là, on va avoir une Allemagne qui va être au centre. L'Allemagne y sera. Par contre, bon nombre de pays et malheureusement la France n'y seront pas. Donc, et avant cela, on aura peut-être un avertissement de la part des agences de notation.
Mais tout le monde s'en fout.
Non, pas. Alors, tout le monde ne s'en fiche pas parce qu'il y a un impact médiatique d'une part, mais aussi ça peut laisser éventuellement quelques traces en termes de points sur le coût de la dette. Et un avertissement, parce que derrière.
Aujourd'hui, on emprunte toujours à un taux.
Je termine là-dessus, pardon. Mais si on rentre dans la réforme de Maastricht, tous les 6 mois, les comptes publics sont revus par rapport, effectivement, à la Commission européenne. Et les
qu'est-ce
aides
qu'ils vont nous faire, c'est comme disait c'est Chirac, ils vont pas nous envoyer des chars.
Ils vont être obligés
c'est
peut-être.
Emmanuel dit à chaque fois.
Ils peuvent obliger un gouvernement à mettre l'accent sur des réformes beaucoup plus importantes, ce que vous évoquez en disant il va falloir chercher 10 ou 20 milliards et là ils seront
c'est pas
dans l'obligation
10 ou 20
de le faire.
Milliards, mais même on parce que les chiffres
ouais,
on dit
peut, absolument c'est
Emmanuel.
Non mais on peut en trouver si on va dans cette logique de passage en revue des inefficacités, des gaspillages, on peut aller chercher, Alain a raison, on peut aller chercher plusieurs dizaines de milliards.
Bien sûr.
Sans, encore une fois, il faut bien le préciser, sans toucher à la qualité du service public et ni aux prestations sociales, etc.
Mais en fait, vous êtes dans la ligne, Bruno Le Maire, c'est-à-dire il faut absolument pas dire le mot austérité, c'est ça ?
Non, mais si, en gros, quand vous voyez, si vous voulez, tous les gaspillages d'argent public, moi, comme je dis toujours, imaginez ce que sont dans vos pires cauchemars les gaspillages d'argent public, dites-vous que la réalité est encore au-delà.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, en fait, c'est pas au niveau, et c'est ça qui est dramatique, c'est que, en fait, au niveau des agents du service public qui sont au contact des usagers, c'est la paupérisation totale. Et donc, c'est pour ça que tout le monde pense qu'on manque d'argent. Pourquoi on a les fonctionnaires les moins bien payés, les policiers les moins bien payés, les enseignants les moins bien payés, les infirmières les moins bien payés? Et en fait, le problème, c'est tout ce qui se passe entre le fonctionnaire de terrain et le ministre. C'est-à-dire, c'est l'empilement des structures. Parce qu'en fait, on peut pas dire qu'il y a des fonctionnaires qui font rien. Le problème, c'est que pour faire une tâche, vous avez 3, 4, 5, 6 fonctionnaires. Là ou ailleurs, vous en avez 2 parce qu'il n'y a pas d'empilement de collectivités locales, de départements, de régions, qu'il faut 6, 7, 8 avis.
Donc vous dites pas d'austérité.
Si vous considérez que l'austérité, c'est effectivement un état,
sacrifice de tous.
Un peu plus efficace et un peu mieux organisé, oui, c'est de l'austérité. Mais
est-ce qu'il y a un déclassement de la France au niveau économique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, moi je le perçois, je le sens et ça m'inquiète, et c'est pas une posture juste là devant la caméra. Je sens qu'il y a un déclassement, c'est-à-dire je sens qu'on joue de moins en moins dans la cour des grands.
Si on prend des critères objectifs, simplement des critères de croissance, on voit bien que depuis de nombreuses années, la France a du mal à faire aussi bien que la moyenne de l'OCDE en termes de performance économique. Les dernières années, donc j'essaye d'établir un diagnostic le plus neutre possible, suisse possible.
Comme moi, quoi.
Ces dernières années, il y a eu un effet de rattrapage. Le rattrapage est intéressant. Et effectivement, ce que disait Christian Bito tout à l'heure, l'Allemagne, elle, est encore en situation de dérapage, mais cette fois-ci, elle n'est plus un élément moteur. Donc, il y a un problème de performance. C'est-à-dire que c'est une économie qui, traditionnellement, dans le passé, amortissait les chocs négatifs, résistait. Mais par contre, elle prenait un train de retard, deux trains de retard même, dans une reprise de l'OCDE. La flexibilisation de l'économie française que l'on a vue à partir du milieu du mandat de M. Hollande, en fait, a permis effectivement d'avoir une économie, une activité qui est beaucoup plus réactive et qui est mieux en ligne, peut-être avec d'autres performances de pays de l'OCDE.
Vous voyez ça, vous?
Alors là, je regardais les chiffres de PIB, les chiffres de croissance, les chiffres d'activité.
Parce que Christian,
la notion de déclassement, c'est par rapport à un pouvoir d'achat,
oui,
par rapport
oui
à un pouvoir
PIB
d'achat moyen,
par habitant, par rapport
PIB
au PIB
par habitant, après la fiscalité, la structure de la dette,
évidemment,
etc. Donc,
les déficits, le déficit commercial,
là, oui,
le
les
déficit
choses
budgétaire,
sont
la dette.
Les choses
parce que, Christian, la croissance qu'on a par rapport à l'Allemagne, qui est peut-être meilleure, c'est une croissance à crédit.
Oui, c'est un léger différentiel.
Une croissance à crédit, c'est facile de faire
oui,
de la croissance.
Mais tout est relatif, c'est-à-dire que les moteurs actuels de la croissance mondiale, qui s'appellent en 1 États-Unis, en 2 Chine, pratiquent depuis 3 ans un déficit budgétaire largement au-delà
mais
de
5%. Mais c'est les États-Unis et la Chine, on ne peut pas comparer avec la France.
On est tout de même encore dans les 7 plus grands, et je ne parle pas du Japon, des 7 plus grands pays. Donc, relativement, se mettre à l'écart, comme l'a fait l'Allemagne depuis à peu près un an et demi, coûte cher en termes
d'activité. On verra dans 2 ans.
De son industrie, de compétitivité.
Juste le classement.
Allez, on passe tout de suite.
Juste un mot. Le classement d'un think tank libéral, espagnol, cette semaine, tous les pays européens, sur croissance, dette, emploi, etc., on est 21e sur 27.